Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique. Les États-Unis ont-ils une vision enfin apaisée de leurs voisins du Sud après le rapprochement entre Washington et La Havane? Regard sur ce qui se joue en Amérique latine alors que la volonté d'émancipation n'a peut-être jamais été aussi forte et partagée dans cette région considérée par Washington comme son arrière-cour, une région dont les médias européens se désintéressent depuis une quinzaine d'années, à l'exception de l'Espagne. Nos invités, Maurice Lemoine, journaliste et écrivain, spécialiste de l'Amérique latine qu'il parcourt depuis 40 ans, ancien rédacteur en chef du Monde diplomatique et auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier, Les enfants cachés du général Pinochet, paru aux éditions Don Quichotte. Bonjour.
Bonjour.
Et Jean-Jacques Kourlianski, chercheur à l'IRIS, l'Institut des Relations internationales et stratégiques, auteur de nombreux ouvrages, dont Amérique latine, insubordination émergente, paru aux éditions Fondation Jean Jaurès. Bonjour.
Bonjour.
On parle peu de l'Amérique latine en Europe, ou disons, on n'en parle plus en comparaison avec les années 80, époque où la guerre froide trouvait encore toute son expression dans la région, entre dictature au Chili, en Argentine, au Brésil, les conflits en Amérique centrale sur fond de mouvements révolutionnaires. Guerre froide qui, d'une certaine manière, s'est poursuivie jusqu'à tout récemment, jusqu'à ce que les États-Unis et Cubains se décident à un rapprochement. Une page est-elle vraiment en train de se tourner entre les États-Unis et l'Amérique latine? Comment les cartes vont-elles se redistribuer? Les régimes de gauche qui s'étaient rassemblés autour de l'ALBA, notamment, mais il n'y a pas que, ont-ils du souci à se faire? L'ALBA, qui est l'Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique. Maurice Lemoine.
Alors effectivement, on a beaucoup parlé de l'Amérique latine ces derniers temps, avec d'abord le rapprochement États-Unis-Cuba, puis la visite de François Hollande à Cuba. Ensuite, il y a plusieurs manières de regarder les choses. On a eu l'annonce historique de Barack Obama, la visite historique de François Hollande. On pourrait dire aussi qu'il y a un contexte historique. Mmh. On a assez peu souligné que le rapprochement entre Barack Obama et Raúl Castro, pour aller vite, était en fait quand même aussi le résultat de la pression de l'Amérique latine sur les États-Unis. Hein. Souvenons-nous que depuis le premier sommet des Amériques auquel a participé Barack Obama en 2009 à Trinidad et Tobago, aucune déclaration commune n'a été signée dans les sommets des Amériques parce que Obama annonçait qu'il maintenait l'embargo contre Cuba. Et lors du sommet des Amériques de Cartagena en Colombie en 2012, un certain nombre de pays latino-américains ont annoncé qu'ils ne participeraient pas au sommet des Amériques de cette année au Panama si Cuba n'était pas invité. De sorte que les États-Unis se sont trouvés quand même dans une situation un petit peu compliquée, c'est-à-dire le risque d'un camouflet, un sommet des Amériques qui s'est passé en avril dernier, sans un certain nombre de pays importants, le Venezuela, l'Argentine, l'Équateur, la Bolivie. Et donc, je pense que ça, indépendamment du fait que Barack Obama est sans doute un président des États-Unis plus intelligent que ses prédécesseurs, puisque tout le monde le sait depuis très longtemps, la stratégie d'isolement de Cuba a échoué. Il a préféré prendre les devants et se rapprocher de Cuba que de se retrouver dans une situation compliquée avec l'ensemble du continent.
Alors, pression des pays latino-américains, pression aussi du Vatican. Il est évident, Jean-Jacques Kourlianski, que la présence d'un pape d'origine argentine à Rome fait que les choses ont véritablement bougé. On était arrivé au bout d'un système, c'est-à-dire que cet isolement, cette isolation de Cuba est arrivé à son terme.
Oui, pour les États-Unis, je crois qu'il faut renverser les termes de l'analyse. Ce sont les États-Unis qui, de plus en plus, étaient isolés non seulement en Amérique latine, mais dans le monde. Il suffit de regarder les votes à l'Assemblée générale des Nations Unies tous les ans pour constater que, dernière année, la condamnation de l'embargo est quasi unanime dans le monde entier, à l'exception des États-Unis, d'Israël et l'un ou l'autre des micro-États du Pacifique. Donc, le constat qu'a fait logiquement le président Obama, c'est que la politique que nous avons suivie pour faire changer les choses à Cuba, un, a été totalement inefficace, Fidel Castro est toujours là, d'autre part, nous sommes isolés. Tous nos partenaires dans le monde, et en particulier les plus proches, ceux d'Amérique latine, ont normalisé leurs relations, et qui plus est, on se trouve avec un temps de retard en matière économique, même si Cuba n'est pas un enjeu majeur en matière économique. La place de l'île est assez stratégique au cœur du Golfe du Mexique. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais il y a un certain nombre d'investissements qui anticipent à la fois l'élargissement du canal de Panama, le renforcement du commerce avec les pays asiatiques, la possibilité de la levée de l'embargo, et donc les Brésiliens ont apporté leur concours aux Cubains pour construire une énorme plateforme de redistribution de conteneurs avec une zone franche à côté de Cuba, Port Mariel. Donc pour toutes ces raisons, effectivement, le président des États-Unis a considéré que il était temps pour son pays de considérer qu'il fallait tourner la page. Ça faisait déjà bien des années que la CIA lui avait dit que Cuba ne constituait plus une menace pour la sécurité des États-Unis. Donc c'était une question qui relève et qui relevait et qui relève encore d'ailleurs des conflits de politique intérieure aux États-Unis comme on le voit aujourd'hui.
Alors le port de Mariel qui est donc près de la Havane, on l'a compris. Maurice Lemoine, Cuba aura-t-elle été finalement l'un des rares bastions dans lesquels les États-Unis n'ont pas pu faire grand-chose en Amérique latine? Est-ce qu'elle est cette île l'expression des limites de la puissance états-unienne?
Alors c'est vrai qu'on a en souvenir les interventions des États-Unis en Amérique centrale, l'appui aux dictatures dans le cône sud, mais la politique des États-Unis par rapport à Cuba a eu une influence sur Cuba. Alors certes, les États-Unis, Washington n'a pas réussi à renverser Fidel Castro ou Raúl Castro à présent, mais la présence de cet embargo depuis les années 60, la pression permanente, y compris les agressions organisées depuis le territoire des États-Unis. Rappelons quand même que ces agressions ont fait plus de 3400 morts depuis le début de la révolution, c'est-à-dire en gros l'équivalent des Twin Towers.
De quelle manière et
attentats,
comment bilan,
souvenez-vous qu'en 1997 encore, il y avait des attentats à la bombe dans les hôtels de la Havane. Et tout ça, évidemment, a eu une influence, y compris sur la politique de l'île. Il est vraisemblable, on n'en sait rien, puisqu'on ne peut pas réécrire l'histoire, que si Cuba n'avait pas été victime de ces agressions, il n'est pas certain que le régime aurait été aussi autoritaire qu'il l'a été, précisément, que ce soit pour des raisons avancées ou les raisons réelles, du fait de cette agression. C'est-à-dire qu'un pays qui se sent assiégé n'a pas de tendance à laisser une liberté totale à son opposition intérieure. Donc cette influence des États-Unis a été contre-productive à la fois pour les États-Unis mais aussi pour Cuba.
Alors Jean-Jacques Kourlianski, je reprends une partie de ma question introductive. Qu'est-ce que le rapprochement entre Washington et La Havane va bouleverser dans les rapports des forces politiques en Amérique latine ?
Bon, alors d'abord, il faudra qu'il se fasse, ce qui n'est pas encore fait. Il y a eu 4 cycles de dialogue entre les États-Unis et Cuba.
Et les négociations sont compliquées.
Oui, c'est compliqué parce que le cœur de l'embargo repose sur 2 lois qui ont été adoptées après d'ailleurs la fin de la guerre bipolaire entre les États-Unis et l'Union soviétique. Donc ce qu'a fait une loi, c'est une loi qui peut le défaire. Et la majorité actuellement au Parlement des États-Unis est une majorité d'opposition au président Obama. Donc le président Obama a lancé cette initiative en direction de Cuba. La majorité des républicains s'oppose à ce rétablissement comme ils s'opposent à l'accord entre les États-Unis et leurs alliés avec l'Iran, comme ils s'opposent aussi à la loi de régulation des sans-papiers pour la plupart d'origine mexicaine et centra-américaine. Donc le président Obama s'est lancé dans une bataille qui est une bataille aussi de politique intérieure. Pour prendre un petit exemple, le rétablissement diplomatiques, ça veut dire ouvrir des ambassades. Pour ouvrir des ambassades, il faut un certain nombre de moyens matériels élémentaires. Il faut par exemple un compte en banque, ne serait-ce que pour payer les frais de bouche des personnels de l'ambassade, pour payer les taxes que doivent payer les personnes qui demandent un visa. Bon, au jour d'aujourd'hui, si Cuba ouvre une ambassade à Washington, cette ambassade n'aura pas accès à un compte en banque dans une banque américaine, puisque l'embargo interdit ce genre de facilité à l'égard d'acteurs politiques, économique, institutionnel cubain. Donc comment est-ce que ça va être résolu? Je ne sais pas. Mais j'imagine que ça fait partie de ce qui est discuté des deux côtés, ce qui explique d'ailleurs que le président cubain a dit, bon, mais c'est très bien ce qu'a fait Obama, mais enfin, il faudrait qu'on arrive au bout des choses, c'est-à-dire à la levée de l'embargo. Alors évidemment, il y a différentes stratégies possibles. Il semblerait déjà que pour l'opinion aux États-Unis, selon les sondages, la plupart des Américains considèrent qu'au fond c'est fait, que tout ça n'a pas de sens et qu'il faut leur redonner la possibilité d'aller en vacances, ce qu'ils faisaient avant 1959-60, d'aller en vacances à Cuba. Il y a des acteurs économiques qui souhaitent également de plus en plus reprendre les négociations, leur présence à Cuba. Les nouvelles générations de réfugiés, les jeunes qui sont nés aux États-Unis, les cubano-américains dans leur majorité, ne comprennent plus non plus le raidissement de certains de leurs anciens. Et quant aux anciens, beaucoup de retraités, donc de Cubains qui vivent aux États-Unis, bon, souhaiteraient bénéficier de leur retraite dans leur pays d'origine pour valoriser leur capital retraite. Ça n'est pas possible non plus. Les institutions sociales ou de retraite aux États-Unis ont fait savoir à ces personnes qu'ils n'avaient pas la possibilité légale de transférer leur retraite à Cuba. Et que donc s'ils allaient à Cuba, ils n'auraient pas de retraite. Donc on se trouve quand même face à un dossier qui est loin d'être clos.
Vous écoutez RFI, Marie-France Chatin.
Dossier loin d'être clos, dossier compliqué, d'autant que, et Maurice Lemoine, je me tourne vers vous, Obama est encore à la Maison-Blanche pour un peu plus d'une année, et que à Washington, donc c'est une majorité républicaine au Congrès, qu'on peut imaginer un rétro-pédalage sur la question cubaine. Et j'en viens aussi côté cubain, toute une partie de l'appareil d'État castriste n'est pas forcément très heureux de cette perspective de lever de l'embargo, avec des craintes autour d'une perte éventuelle d'emploi. Bref, il y a aussi côté cubain des difficultés qui attendent Raúl Castro.
Oui, alors vous savez que lorsqu'on est journaliste, on peut parler du passé, on peut parler du présent, il faut être prudent sur l'avenir. Rétropédalage, je n'y crois pas trop. Je n'y crois pas trop, y compris parce que l'Union européenne est peut-être en train de donner un coup de main à Barack Obama ou aux démocrates sur le cas de Cuba, dans la mesure où on a vu le président François Hollande, je vais dire un peu méchamment, se précipiter parce que d'un seul coup la porte est entrouverte. On voit l'Union européenne, qui vous le savez, avait des relations un peu compliquées avec Cuba depuis 1996, année au cours de laquelle, sous l'impulsion du chef du gouvernement espagnol, José María Aznar, l'Union européenne avait pris ses distances avec Cuba. Or, des négociations sont en cours actuellement, et ils se trouve qu'on va donc avoir à Cuba la présence de pays d'Amérique latine, le Brésil, le Venezuela, la Chine, la Russie, les Européens qui vont venir pour faire des affaires. Et c'est un marché, c'est aussi une porte d'entrée vers l'Amérique latine. Et donc, y compris, j'imagine, dans les milieux économiques républicains, on va réfléchir au fait qu'on ne peut pas être les derniers et qu'on va se faire prendre de vitesse par tout le monde. Bon. Cela étant, effectivement, ça va être compliqué. Juste une toute petite information sur l'affaire des banques. Il semblerait qu'une banque de Floride a été trouvée, mais on a effectivement, par exemple, la sortie qui est imminente, paraît-il, de Cuba, de la liste des pays qui soutiennent le terrorisme. Se posera le problème de la restitution de la base de Guantanamo, qui ne va pas être une mince affaire. Donc effectivement, tout ça va prendre du temps. Après, on est dans un paradoxe. C'est vrai que tout le monde, je pense, regarde avec satisfaction la fin de ce mur de Miami, en quelque sorte. Mais au même moment, Barack Obama fait passer un décret dans lequel il mentionne que le Venezuela est une menace inhabituelle et extraordinaire pour la sécurité nationale des États-Unis. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il fait la même erreur qu'ont fait les États-Unis dans les années 60 et 70. Et là, pour le coup, Jean-Pierre Koulansky le soulignait, les États-Unis étaient isolés sur Cuba. Ils sont en train, d'une certaine manière, de s'isoler sur le Venezuela, parce que, bien souvent, on parle de la communauté internationale, et dans l'esprit, la communauté internationale, c'est les États-Unis, l'Union européenne et l'OTAN. Mais sur cette affaire vénézuélienne, sur ce fameux décret, on a l'Union des Nations Sud-Américaines, l'UNASUR, qui s'est prononcée contre, la communauté des États latino-américains et caraïbes qui demande le retrait de ce décret, la Russie, le G77 plus Chine, le mouvement des non-alignés, c'est-à-dire les deux tiers des pays qui ont une présence à l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est-à-dire la communauté internationale réprouve ce décret. Et là, on est peut-être qu'un jour Obama écrira ses mémoires. On est un peu surpris. Alors c'est vrai que le Venezuela n'est pas Cuba, dans la mesure où le Venezuela possède les réserves de pétrole les plus importantes vraisemblablement du monde. Mais il y a une certaine manière, une forme d'incohérence. Et donc se consenter comme un rapprochement Amérique latine-États-Unis, quelles que soient les options idéologiques ou politiques des autres pays d'Amérique latine, est obéré par ce décret un peu bizarre d'Obama.
Alors je rebondis là-dessus, est-ce que vous évoquiez à l'instant, Maurice Lemoine, cette incohérence américaine. Je me tourne vers vous, Jean-Jacques Roulion. On a beaucoup évoqué l'idée que ce haro tout à coup sur le Venezuela, enfin tout à coup non, parce qu'après ça il y a une histoire qui a précédé avec Hugo Chavez. En tout cas, c'était peut-être un gage donné aux républicains, donc une question de politique intérieure américaine, un commentaire Jean-Jacques Orlianski.
C'est une hypothèse, hein. Il faudra qu'un jour le président Obama explique le pourquoi de cette décision qui a peu surpris, parce qu'il l'a prise, il aurait pu la prendre par exemple aujourd'hui au mois de mai, mais il l'a annoncé le 9 mars, c'est-à-dire pratiquement un mois avant le sommet des Amériques où l'obstacle cubain avait été levé. Donc il allait être accueilli à bras ouverts. Et tout d'un coup, plouf, le caillou qui est tombé dans la mare, il annonce que, sept personnalités du régime vénézuélien vont être interdites d'entrer aux États-Unis. Ce qui a soulevé effectivement des résistances, des condamnations un peu partout dans le monde. Mais alors, moi je voudrais en souligner une qui est particulièrement intéressante. C'est la déclaration qu'avait faite à ce moment-là le ministre des Affaires étrangères du Chili, qui est un pays membre de l'Alliance du Pacifique, donc qui a priori, qui n'est pas suspect. Les pays membres de l'Alliance du Pacifique sont plutôt des pays qui partagent un certain nombre de valeurs avec les États-Unis. Ce ministre, Heraldo Muñoz, a fait la déclaration suivante. Il a dit « Moi, je ne me prononcerai pas sur ce qui se passe au Venezuela. On connaît les positions du Chili à ce sujet. On n'a pas effectivement les mêmes orientations. Mais la page des ingérences dans les affaires des autres est maintenant tournée. Cette déclaration n'est pas acceptable en l'état. Si des décisions doivent être prises concernant le Venezuela, elles doivent être prises de façon collective par la société internationale. Donc c'est un peu le reflet de, je m'excuse de citer l'ouvrage dont vous avez parlé tout à l'heure, Insubordination émergente. Et depuis une vingtaine d'années, les pays latino-américains ont pris le large par rapport aux États-Unis, ont assis leur indépendance de différentes manières. On en parlera tout à l'heure avec les structures intergouvernementales qu'ils ont créées. Et donc, ils entendent et ils admettent qu'il y a des différends avec les États-Unis. Mais ce qu'ils demandent, c'est que ces différends soient traités de façon égale, qu'il soit considéré comme une partie digne de respect, comme n'importe quel autre grand pays du monde. Donc la déclaration du ministre chilien, de ce point de vue-là, était particulièrement révélatrice de cet état d'esprit, mais on aurait pu également prendre d'autres témoignages de présidents de pays amis ou de ministres de pays amis comme ceux de Colombie. Hein. Il faut rappeler aussi que la Colombie est l'un des pays les plus proches des États-Unis sur le continent américain, enfin dans le sous-continent latino-américain, et que c'est pourtant Cuba que les autorités colombiennes ont ciblé pour que les négociations et le dialogue qu'ils ont engagé avec la guérilla des FARC, qui est une guérilla qui est officiellement communiste, donc qui est exactement dans la même spectre politique que les autorités colombiennes. Donc les autorités colombiennes ont choisi Cuba pour engager les négociations de paix avec la guérilla des FARC. Donc il y a un changement profond en Amérique latine. Les États-Unis sont peut-être pas aperçus, mais avec la fin de la guerre froide, les centres d'intérêt qui ont évolué, les États-Unis sont plutôt proches au Moyen-Orient, en Asie, en Extrême-Orient. Donc les pays d'Amérique latine ont pris le large, ont pris leur disposition pour asseoir leur autonomie. Et donc des pays comme le Chili ou comme la Colombie, même s'ils ne partagent pas évidemment les orientations idéologiques de Cuba ou du Venezuela, n'acceptent plus les ingérences à l'ancienne, telles que les pratiquaient les États-Unis avant la fin de la guerre froide.
Alors, je rebondis, et il nous reste peu de temps, Maurice Lemoine, donc vous aurez une partie de réponse pour cette première partie d'émission, et on reviendra dessus dans la deuxième partie. Je voudrais rebondir sur la notion que la page, ce qu'évoquait à l'instant Jean-Jacques Orlianski, la page des ingérences est tournée. Moi, j'ai cette question. Est-ce que des relations égalitaires entre les États-Unis et le sous-continent sont possibles? Vous dénoncez dans Les enfants cachés du général Pinochet les coups d'État ou tentatives de déstabilisation qui ont affecté le Venezuela. Donc, tout ça dans un passé très récent, finalement. Hein. Le Venezuela en 2002, Haïti en 2004, la Bolivie en 2008, le Honduras en 2009, l'Équateur en 2010 et le Paraguay en 2012. Donc, vous dénoncer la main cachée de Washington. Qu'est-ce que l'on sait vraiment? Et j'en reviens à cette question. Des relations égalitaires entre les États-Unis et l'Amérique latine sont possibles?
Ce que vous évoquez, c'est le rêve de tout être rationnel qui fait de la politique ou qui s'intéresse à la politique, et j'irais presque qu'il soit de droite ou qu'il soit de gauche, qu'il soit progressiste ou qu'il soit conservateur. Après, effectivement, c'est compliqué dans la mesure où il faudrait d'abord comprendre comment fonctionnent vraiment les États-Unis. Parce que bien souvent, au moment, par exemple, du coup d'État contre Manuel Zelaya ou Honduras, en 2009, on s'est demandé « Obama or not Obama ». Or, en réalité, un président des États-Unis, contrairement à ce qu'on imagine, ne commande pas, ne maîtrise pas toutes les données du problème. Hein. Vous avez le département d'État, vous avez la CIA, vous avez les lobbies, vous avez les secteurs économiques, vous avez un certain nombre d'interlocuteurs qui font que, par exemple, sur la crise de Honduras, on va aller vite, parce que vous m'avez signalé qu'on arrive au bout de cette première séquence.
Mais vous aurez le droit de prolonger. Hein,
voilà. C'est simplement sur cette séquence du Honduras. On a vu Obama, dans un premier temps, déclarer le président Manuel Zelaya et le président du Honduras, et je le reconnais, et on a vu ensuite Hillary Clinton reprendre l'affaire en main, la sortir de l'organisation des États américains où un certain nombre de gouvernements de gauche et de centre-gauche sont maintenant présents et donc rendaient difficile le soutien à ce coup d'État, et les mettre entre les mains d'un ami des États-Unis, l'ex-président du Costa Rica, Oscar Arias, qui lui a fait gagner du temps aux putschistes pour finalement arriver à laver le coup d'État un petit peu plus tard par des élections sous contrôle. Donc, quand on parle des États-Unis, de l'Amérique latine et des coups d'État, des déstabilisations, on n'est pas dans la théorie du complot. Hein, il y a un certain nombre d'éléments objectifs qui permettent de dire dans un certain nombre de cas les États-Unis sont présents. Ils sont présents sur le Venezuela, ils sont présents sur le Honduras. Ils ont été présents sur la Bolivie, on en est moins sûr sur l'Équateur et sur le Paraguay.
On poursuivra dans la deuxième partie de l'émission géopolitique. Nous retrouvons nos invités Jean-Jacques Kourlianski et Maurice Lemoine dans quelques instants.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur les relations entre les États-Unis et l'Amérique latine. Nous retrouvons nos invités, Maurice Lemoine, journaliste et écrivain spécialiste de l'Amérique latine qu'il parcourt depuis 40 ans et ancien rédacteur en chef du Monde diplomatique, auteur de plusieurs ouvrages dont le dernier, Les enfants cachés du général Pinochet, paru aux éditions Don Quichotte, et Jean-Jacques Kourlianski, chercheur à l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, auteur également de plusieurs ouvrages dont le dernier, Amérique latine, Insubordination émergente, paru aux éditions Fondation Jean Jaurès. Maurice Lemoine, nous évoquions dans la première partie de l'émission à la fin la question de savoir si des relations égalitaires entre les États-Unis et le sous-continent étaient possibles. Je reprenais quelques éléments de votre ouvrage, Les enfants cachés du général Pinochet, dans lequel vous dénoncez les coups d'État ou tentatives de déstabilisation qui ont affecté plusieurs pays latino-américains, évidemment des pays dont les gouvernements étaient plutôt des gouvernements de tendance de gauche, et vous y voyez la main de Washington, directe ou indirecte, réfutant la théorie, en tout cas, du complot.
Oui, il ne s'agit pas de théorie du complot, il ne s'agit pas d'anti-américanisme primaire non plus. On s'est posé la question à la fin des années 90, au terme de ce qu'on va appeler la vague néolibérale, c'est-à-dire après la fin des dictatures, après la fin des conflits en Amérique centrale, où on a vu à la fois le retour de la démocratie et où on a vu s'installer le modèle néolibéral, sur lequel je vais donner deux chiffres. En 1980, il y avait 120 millions de pauvres en Amérique latine, à la fin des années 90, il y en avait 225 millions. C'est-à-dire que sur le plan social, ça a été une catastrophe totale. On s'est posé la question à l'époque, on se disait certes la démocratie est revenue, mais si demain des gouvernements de gauche ou de centre-gauche arrive au pouvoir et modifie les règles du jeu, hein, c'est-à-dire en gros abandonne ou s'éloigne du modèle néolibéral, que va-t-il se passer? Est-ce qu'on va retomber dans les coups d'État qu'on a connus dans les années 60-70? Et en réalité, on se rend compte avec le recul qu'effectivement, depuis l'arrivée d'un certain nombre de présidents qu'on va appeler progressistes, chacun dans son registre, chacun dans sa nuance, on a eu des coups d'État, vous les avez cités tout à l'heure, hein, donc je ne reviens pas là-dessus.
La Bolivie, le Honduras, voilà. Haïti, le Paraguay, l'Équateur.
Voilà. Simplement, dans l'imaginaire, un coup d'État, pour nous, c'est un coup d'État militaire. Aujourd'hui, les coups d'État ou les tentatives de déstabilisation sont beaucoup plus subtiles. Effectivement, ce type de violence est contre-productif. La société internationale a évolué. Le concept des droits de l'homme s'est installé peu à peu dans l'ensemble des sociétés. Donc, on ne peut plus faire, en tout cas dans cette partie du monde, parce qu'on pourrait regarder, porter les regards ailleurs. Et là, les méthodes brutales sont toujours en vigueur. Mais en Amérique latine, on peut difficilement aujourd'hui faire un coup d'État classique. Donc, il faut aujourd'hui arriver à déplacer le pouvoir en faisant en sorte que personne ne puisse accuser des putschistes d'être antidémocratiques ou d'avoir violé la Constitution. Je vais prendre un seul exemple. Dans les années 70, si vous vous intéressiez au Chili, si vous étiez de droite ou si vous étiez de gauche, vous regardiez les manifestations de la bourgeoisie dans les rues de Santiago du Chili et on vous disait « la droite manifeste au Chili ». Donc selon que vous appuyiez Allende ou que vous aviez la sympathie pour l'opposition, vous saviez où vous situez. Si vous prenez 2002 au Venezuela, mais on peut là pour le coup étendre…
Chavez est au pouvoir…
Et la société civile est dans la rue. Mais qu'est-ce que la société civile ? La société civile, c'est vous, c'est moi, c'est les journalistes, c'est les syndicalistes, c'est-à-dire que c'est un ensemble qui n'a strictement aucune cohérence et qui, d'une certaine manière, ne veut rien dire. Sauf que pour le citoyen lambda de France, d'Europe, n'importe où, le terme société civile résonne d'une manière plutôt agréable et plutôt sympathique. Donc, l'emploi d'un certain vocabulaire permet d'une certaine manière de masquer la nature, on peut dire, l'opposition de droite manifeste au Venezuela. C'est pas honteux. Or, pour justifier ce qui s'est passé ensuite, c'est-à-dire le coup d'État contre Chavez, on a masqué, aujourd'hui encore d'ailleurs, hein, lorsqu'il y a des manifestations au Venezuela, depuis février de l'an dernier, on vous dit les étudiants sont dans la rue. Enfin, je voudrais rappeler qu'en mai 68, en France, il y avait des étudiants d'extrême droite, ça existait, hein, l'université d'Assas, tout le monde l'a en mémoire. Et là, pour le coup, bien souvent pour des raisons idéologiques, aussi pour des raisons de paresse, de méconnaissance, chacun d'entre nous, s'il n'est pas un peu spécialisé sur l'affaire, ne se rend pas compte qu'il y a eu coup d'État. Et il ne s'agit pas non plus de dire que ces présidents ne méritaient pas des reproches. Hein. La politique du Venezuela, on peut avoir des débats sur la politique, on peut avoir des débats sur la politique de Jean-Bertrand Aristide en Haïti. Cela étant, c'est pas parce qu'une politique déplaît qu'on doit renverser le président. Là, on est dans un débat sur la démocratie.
Jean-Jacques Kourlianski, vous partagez cette vision des choses de Maurice Lemoine sur les pays évoqués, et en particulier le Venezuela ?
On n'est plus dans la phase de guerre froide dans laquelle les États-Unis pouvaient agir de façon militaire et brutale à l'intérieur des pays latino-américains. Bon, d'abord, l'enjeu n'est plus le même pour les États-Unis, donc il faudrait vérifier le jour où l'Amérique latine deviendra un enjeu majeur pour les États-Unis, comment les États-Unis vont se comporter à l'égard de ces pays-là. C'est pas le cas aujourd'hui. Alors, c'est vrai qu'il y a actuellement des tensions au sein de ces pays, notamment au niveau des classes moyennes. Au Venezuela, en Argentine, au Brésil, dans un certain nombre de pays, on constate, alors, un élément qu'il faut prendre en compte, le sous-continent latino-américain est celui des inégalités les plus fortes au monde. Je ne parle pas de l'indice de pauvreté, mais des inégalités sont beaucoup plus marquées en Amérique latine qu'en Afrique. Donc ça veut dire que dans les débats politiques, dans le partage de la galette des ressources nationales, les conflits sont extrêmement brutaux. C'est pas d'ailleurs un hasard si ces conflits non seulement sont politiques, mais se traduisent aussi par des niveaux de délinquance qui sont parmi les plus élevés au monde. On voit ce qui se passe au Venezuela aujourd'hui, mais on voit aussi au Mexique, peuvent donc déstabiliser un certain nombre de pays indépendamment des problèmes politiques et des contradictions politiques. Alors que les États-Unis essaient de jouer sur les lignes de faille, oui, mais on ne sent pas qu'il y ait une volonté d'aller jusqu'au bout du raisonnement.
C'est-à-dire ?
Lorsqu'il y a des résistances côté latino-américain, donc, alors il faudrait voir effectivement ce qui se passe avec un président républicain, si un président républicain est élu après le président Obama. Quelque part, ça peut être une variable d'ajustement. Par exemple, sur le Honduras, où effectivement, initialement, le président Obama avait soutenu le maintien du président Zelaya, il avait au même moment un débat extrêmement compliqué au Congrès des États-Unis sur sa réforme de la sécurité sociale. Les républicains avaient pris comme cheval de bataille le soutien aux putschistes. Une délégation de sénateurs était allée à Tegucigalpa, et donc le constat qu'on peut faire, il n'y a pas de preuves ou de déclarations de choses extrêmement tangible, mais c'est cette tension, cette pression des républicains à propos du Honduras, au fond, a été considérée comme un élément secondaire de par Obama qui a lâché du lest ensuite sur le Honduras. Donc, les processus de décision sont effectivement extrêmement compliqués aux États-Unis. Il y a des jeux de pression, de vapeur qui vont dans un sens et dans l'autre. Et il est difficile de prévoir le sens que vont prendre les arbitrages. Alors que dans la période antérieure, celle de la guerre froide, bon, il y avait un adversaire jugé principal par les États-Unis, c'était l'Union soviétique, et donc tout ce qui, de près ou de loin, se rapprochait de l'Union soviétique, il fallait couper la tête. Là, on n'est plus dans cette situation-là, on est dans une situation qui est beaucoup plus ouverte et beaucoup plus floue, même si, on en parlera peut-être tout à l'heure, dans la période récente, les contradictions, les conflits à l'intérieur de l'Amérique latine sont de plus en plus aigus et de plus en plus forts en raison de la crise économique qui commence à toucher également les pays latino-américains et que ça ouvre un espace aux interventions extérieure.
Alors justement, Jean-Jacques Olianski fait ma transition, je me tourne vers vous Maurice Lemoine, pour parler un peu économie. C'est vrai que la chute des prix des matières premières, que ce soit le pétrole ou les matières premières agricoles, fait que beaucoup de... Enfin, en tout cas, les gros pays latino-américains, je pense au Brésil, je pense à l'Argentine, je pense évidemment, et on le citait tout à l'heure, le Venezuela, sont des pays qui sont fort mal en point. À cela s'ajoute une corruption endémique, je passe sur d'autres éléments. À l'évidence, c'est un coup dur pour le socialisme du 21e siècle, comme on l'appelle. Est-ce que c'est un échec ?
Alors, c'est peut-être un petit peu trop tôt pour parler de catastrophe totale et un petit peu trop tôt pour parler d'échec. Il y a, à l'évidence, comme dans la vie politique en général, il y a des cycles. Bon. Il faut souligner une chose, à l'heure où l'on souligne effectivement des difficultés qui sont réelles de tous ces pays, mais des difficultés qui touchent des pays, y compris idéologiquement très, très différents, parce que la chute, par exemple, des prix du pétrole, bien sûr, affecte le Venezuela, mais affecte la Colombie, affecte l'Équateur, affecte le Mexique, affecte les compagnies pétrolières européennes, affecte l'Angola. Donc, on n'est pas uniquement dans une guerre qui serait menée contre le Venezuela ou la Bolivie, l'Équateur. Il faut d'abord avoir une donnée. Parce que suivant la manière dont on regarde un problème, cette manière va définir les conclusions qu'on en tire. Pendant ces 15 années, qu'on a souvent appelé le cycle populiste, que moi j'appellerais cycle redistributif...
Mais vous n'aimez pas le terme populiste.
Non, on a eu affaire à une redistribution différente de celle qui avait lieu auparavant. L'ensemble de ces pays ont sorti 56 millions de personnes de la pauvreté.
Mais toujours un continent qui est champion en termes d'inégalité.
C'est vrai, oui, bien sûr.
Non, vous l'évoquez,
mais tout à fait. Mais vous savez, vous évoquez le mot corruption. Vous l'avez dit tout à l'heure, on n'a que 40 minutes, on est tous coincés. Hein. Mais sur la corruption, par exemple, le Venezuela, effectivement, il y a une corruption qui est une corruption endémique, et on le sait, c'est un des problèmes qui n'a pas été résolu au Venezuela. C'est pas un phénomène nouveau. En faisant des recherches pour un travail sur la dette, j'ai retrouvé que la Banque mondiale estimait en 1987, donc bien avant l'arrivée du président Carlos Andrés Pérez ou de Chavez, le montant des capitaux évadés du Venezuela excédait de 40% le montant de sa dette extérieure. Donc voilà, ça c'est un fait, il y a dans cette partie du monde de la corruption. De même qu'au Brésil par exemple, qui a un modèle politique qui est quasiment ingouvernable, Lula ou Dilma Rousseff n'ont jamais eu la majorité, donc sont obligés de passer des alliances avec parfois des partis très baroques, ou les ruralistes, ce qu'on appelle les ruralistes, les grands propriétaires terriens, et que tout ça effectivement débouche sur des problèmes de corruption, etc. Alors on est dans une période aujourd'hui plus difficile, ça ne veut pas dire pour autant que tout va s'effondrer. Le socialisme du 21e siècle, puisque vous avez évoqué le mot, c'est une utopie, c'est une recherche. Hein. Je veux dire, il n'y a aucun de ces pays n'est socialiste. C'est-à-dire, hein, qu'on parle du Venezuela, à la limite, on pourrait dire que Cuba est socialiste, hein, parce qu'elle revendique son système marxiste jusqu'à présent, le léniniste. Mais aucun de ces pays n'est socialiste, donc c'est une recherche. On peut imaginer qu'à terme, ça me paraît évident, et un jour, les chavistes perdront le pouvoir au Venezuela, ou Evo Morales, ou son successeur, plutôt sera battu en Bolivie. Mais ça, c'est la vie démocratique normale. Le problème qui est posé en ce moment par rapport à ces difficultés, c'est quelle est la part des difficultés réelles et des erreurs de ces gouvernements dans la gestion de leur économie. Problème du Venezuela, avec un taux de change multiple qui pose des problèmes à une partie de la population, en particulier la classe moyenne. Et quelle est la partie de déstabilisation qui s'ajoute à ça? Je pense au Venezuela. Il y a des vrais problèmes au Venezuela qui sont démultipliés par une déstabilisation. De sorte que le problème qui est posé, c'est la poursuite de la démocratie. Hein, c'est-à-dire que, après tout, s'il y a des problèmes aujourd'hui, peut-être qu'ils seront réglés demain par des oppositions. Le tout étant, et ça c'était un concept maintenant qui rentrait très très fort dans les sociétés latino-américaines, la démocratie, c'est aussi la démocratie sociale. Ça, ça veut dire que ça sera très difficile, y compris pour des gouvernements conservateurs demain s'ils reviennent au pouvoir, de revenir sur un certain nombre de ce qu'on appelle les acquis sociaux. Voilà, après, et je termine là-dessus, parce que c'est quelque chose qui est rarement évoqué, de mon point de vue. Et là, je dis bien de mon point de vue, l'opposition vénézuélienne y était responsable. C'est-à-dire que si l'opposition vénézuélienne gagne demain le pouvoir démocratiquement, il n'y aura pas de problème majeur. Mais en imaginant qu'on pousse Nicolas Maduro à la démission, ou qu'on tente de le renverser, ou qu'on se livre à des manœuvres, n'oublions pas qu'on est à côté d'un pays qui s'appelle la Colombie, qui vient de connaître un conflit armé dont on n'est pas encore sorti, mais dont on espère que les négociations vont bientôt aboutir.
Qui font des hauts et des bas,
qui font des hauts et des bas, mais que si, au Venezuela, le président démocratiquement élu était renversé dans des conditions non démocratiques, on prend le risque d'une crise majeure, y compris avec une résurgence de lutte armée.
Jean-Jacques Kolonski, un commentaire complémentaire sur le Venezuela. Après ça, je voudrais qu'on passe à la question de
Lula. Je voudrais faire un commentaire plutôt sur la baisse des ressources tirées des matières premières. Mmh. Ce qui conduit à parler de la Chine. On a tourné autour du pot, là, depuis le début de l'émission. La Chine est devenue un acteur central en Amérique latine et qui est à l'origine, d'ailleurs, de la période de croissance économique. La Chine a une demande de matières premières agricoles, énergétiques, minières, donc qui a fait monter le prix des matières premières dont ont bénéficié les pays d'Amérique latine, dont ont bénéficié les pays africains, et donc c'est le ralentissement de la croissance chinoise et donc de la demande chinoise qui est à l'origine de ce qui se passe en Amérique latine.
On n'a rien à voir avec les gouvernements, donc, si je vous entends bien.
Donc ça pose un problème de fond. Le constat qu'ont pu faire les latino-américains, ils l'ont fait notamment au Brésil, c'est que d'un côté, leurs balances commerciales ont été positives, ça a permis aux États qui vivent des droits de douane plus que des impôts dans la plupart des pays, d'avoir une masse financière en vue de lancer des programmes sociaux extrêmement ambitieux dans pratiquement tous les pays d'Amérique latine. Et donc, ces programmes aujourd'hui sont en difficulté parce que l'effet pervers de cette relation avec la Chine portant sur des matières premières, qu'elles soient agricoles, minières ou énergétiques, c'est la primarisation des économies, qui est assez négatif, notamment au Brésil, qui a toujours un secteur industriel important, mais avec la surévaluation des monnaies, donc les industriels brésiliens sont devenus de moins en moins compétitifs. Donc le problème qui est posé aux pays latino-américains, c'est aujourd'hui, bon, que les Chinois achètent moins, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va produire? Donc il y a une crise du modèle de production qui affecte non seulement le Venezuela dont vous venez de parler, mais aussi le Chili. La croissance chilienne qui repose pour l'essentiel sur les ventes de cuivre, en particulier à la Chine. La Chine en achète moins, donc la croissance a chuté de moitié. Et le constat que l'on peut faire, c'est que les tensions ont commencé à se faire sentir au Chili, il y a des manifestations, etc. Bon, c'est couplé comme traditionnellement, lorsqu'il y a des périodes de récession économique, toutes les problèmes de corruption prennent une importance médiatique extrêmement importante, et donc on a un problème de corruption évidemment totalement inédit et insolite au Chili. Donc c'est pas simplement le Venezuela, donc ça concerne aussi le Mexique, l'Argentine, le Brésil. Donc on se trouve là face à une conjoncture. Donc paradoxalement d'ailleurs, la Chine pourrait tirer profit. Le premier ministre chinois a effectué une visite extrêmement intéressante ces derniers jours. Il a ciblé notamment les pays de l'Alliance du Pacifique, Brésil, mais aussi les pays de l'Alliance du Pacifique, et en particulier la Colombie, qu'il avait toujours évité de visiter. C'est une question que je me suis posée à plusieurs reprises, que j'ai posée à des interlocuteurs colombiens. La réponse qu'on m'a donnée est la suivante. On m'a dit, bon, les Chinois ont avancé avec prudence avec les pays qui sont considérés internationalement, mais par eux aussi, comme des proches des États-Unis. Et donc, ils ont tourné autour du Mexique, ils ont tourné autour de la Colombie, mais maintenant, c'est fait. Donc, je veux dire, c'est aussi le signe d'une évolution des rapports de force au niveau international. C'est-à-dire que le premier ministre chinois est allé en Colombie. C'est la première fois qu'un premier ministre chinois se rend en Colombie. C'est vrai que la Chine est devenue le deuxième partenaire économique de la Colombie. Et l'un des éléments majeurs, moi, que je tire de la visite du premier ministre chinois sur le sous-continent latino-américain, c'est le soutien financier à un projet structurant. Les Chinois ont décidé de financer un projet de chemin de fer bi-océanique entre l'Atlantique et le Pacifique en vue de faciliter la sortie des exportations brésilienne vers le Pacifique directement à travers le Pérou. Deux pays qui ont été visités cette fois-ci par le Premier ministre chinois.
Il nous reste peu de temps pour terminer cette émission. Dieu sait que je voulais qu'on parle de l'UNASUR, qui est l'Union des Nations Sud-Américaines en rapport avec ce besoin d'autonomie de l'Amérique latine. Mais Maurice Lemoine, de ce que vient de dire Jean-Jacques Koulianski, ce que je sens par rapport à l'Amérique latine, c'est plus que jamais un terrain d'expression de la rivalité entre les États-Unis et la Chine.
Ben, c'est-à-dire que c'est l'image même de ce qu'est en train de devenir le monde, c'est-à-dire avec un monde beaucoup plus multipolaire qu'il ne l'était jusqu'auparavant. L'analyse est juste. Avec, puisqu'on parle de l'Amérique latine, la différence, vous l'avez évoqué, c'est l'apparition depuis 2008 de l'UNASUR, l'Union des Nations Sud-Américaines, et puis depuis 2011 de la CELAC, la Communauté des États Latino-Américains Caraïbes, qui sont deux organisations au sein desquelles des pays qui n'ont pas forcément les mêmes idéologies, on peut situer Venezuela, Colombie, ou CELAC, Cuba et le Chili, cohabitent et peuvent discuter de leurs intérêts communs sans la présence des États-Unis. On peut trouver que tout ça, c'est des machins, comme aurait dit le général en son temps. En réalité, non, pas tellement. En septembre 2008, on a eu en Bolivie une tentative de déstabilisation d'Evo Morales à travers les régions les plus riches du pays, ce qu'on appelle la Media Luna, là où sont les ressources en hydrocarbures. Ce n'est pas l'Organisation des États américains qui a réglé le problème, c'est l'UNASUR. Et c'est l'UNASUR qui a dit à l'opposition d'extrême droite bolivienne, il est hors de question, un, qu'un président démocratiquement élu soit renversé, et deux, il est hors de question qu'il y ait une quelconque tentative de séparatisme dans ce pays. Donc ce ne sont pas uniquement des organismes symboliques, ce sont des organismes dans lesquels effectivement, on a une conscience latino-américaine qui est en train de se créer et qui peut éventuellement servir de terrain d'entente et de négociation. Juste une chose, c'est que ces deux organismes ont déclaré qu'ils voulaient que l'Amérique latine soit une zone de paix.
Ce sera intéressant de développer à une autre occasion parce que le temps nous manque, évidemment. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est davantage sur les aspects politiques que se sont créés à la fois l'UNASUR et la CELAC avec cette question sous-jacente. Est-ce que c'est la fin de l'organisation des États américains? Mais voilà, point d'interrogation. Jean-Jacques Koulianski, vous voulez... Alors, ultra rapidement...
Oui, on a souvent la tentation de poser les problèmes de façon informatique, in et out. Oui. En réalité, en Amérique latine, c'est in et out. Donc, c'est OEA et CELAC.
Merci, c'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités, Maurice Lemoine, journaliste et écrivain, spécialiste de l'Amérique latine qu'il parcourt depuis 40 ans et ancien rédacteur en chef du Monde diplomatique, auteur de plusieurs ouvrages dont le dernier, Les enfants cachés du général Pinochet, par édition Don Quichotte, et Jean-Jacques Koulianski, chercheur à l'IRIS, auteur également de plusieurs ouvrages dont le dernier, Amérique latine, insubordination émergente, aux éditions de la Fondation Jean Jaurès. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook, Géopolitique, le débat. Émission signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. À très bientôt.